Il fait des repas extraordinaires, mais elle, je te le jure qu'une fois de temps en temps, ça y prend et elle trippe. C'est genre de nouilles dans l'eau avec juste du jus de tomate. À un moment donné, elle m'avait reçu avec ça, OK?
Nouilles dans l'eau avec du jus
genre,
de tomate.
Ben, mettons, tu fais cuire tes pâtes, OK? De
ouais.
boîte, là.
Ouais.
Puis tu fais juste verser du jus de tomate.
Ah, mais c'est pas mauvais.
C'est tellement ordinaire. Mais
Ah, ouais.
elle, elle a vraiment du fun, là. Moi, j'ai l'impression que je bois une soupe avec trop de pâtes.
J'aurais un stress de te recevoir à souper.
Ben non.
Un auditeur qui me dit, pour moi, c'est du beurre, de la relish et de la mayo avec de la longe de porc.
Pardon? OK? Puis ton côté normal, mettons, c'est comment qui se traduit?
Je sais pas. Anyway, on va parler de bouffe, les amis. Juste avant, on va regarder ce qui se passe ouais. à la mer à Théo. C'est 23 degrés sur Québec avec le facteur humidex, une température ressentie de 27. Une alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui avec un... humidex de 30 maximum, c'est ce qu'on nous mentionne. Ce soir, partiellement nuageux avec un minimum de 12. Demain, vendredi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 17 degrés. Pour ce qui est du week-end, c'est quelques averses, nous mentionne-t-on. T'avais quelque chose à ajouter?
Ben, je sais pas, quelqu'un qui est un peu terroriste et qui décide de partir un débat sur du ou des cretons, je pense qu'on va laisser aller.
Ah, voilà, voilà. Mais on va parler de bouffe, par exemple, ouais. parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Sébastien Potier de Libro et de Resto Québec. Il va nous parler du fameux guide Michelin. On va connaître aujourd'hui les restaurants de Québec et du Québec qui vont faire partie du guide Michelin. Salut Jean-Sébastien, merci d'être là.
Salut, merci pour l'invitation.
Avant de parler du guide Michelin et des restaurants de Québec qui pourraient être dedans, parlons un peu de Libro et Resto Québec. Qu'est-ce que c'est exactement?
Écoute, Libro, c'est un... En fait, on va commencer par Resto Québec. C'est quand on était en 2010, dans le temps, là, on cherchait des restaurants. Je pense que c'était les pages jaunes, c'était les gros annuaires, les gros bottins. Puis on a parti un guide là, en ligne pour trouver des restaurants. C'est un moteur de recherche là, pour s'inspirer, puis trouver le restaurant. Mettons, tu cherches du italien, tu cherches un steakhouse. Bon, ben, tu vas aller voir les photos, les menus. Tout se passe là-dessus. Et est venu Libro en 2014, qui est un système de réservation. Fait que, en gros, vous autres, j'imagine les gens qui vont manger au restaurant, qui vont chez Saint-Hubert ou peu importe, ils vont réserver en ligne. Puis ils vont recevoir leur confirmation, etc. Mais Libro, c'est aussi l'outil de gestion en arrière. Donc, le restaurateur, lui, il gère son plan de salle, il gère ses réservations, il joue à Tetris aussi pour s'assurer de maximiser l'espace. Donc, c'est ça.
Quand tu réserves, maintenant tu t'en vas sur la page du Saint-Hubert, quand ils vont te donner les heures puis les dates possibles, c'est ça le système Libro.
Exact, exact.
Oui.
OK. Qu'est-ce qui fait que Pascal et bien d'autres à Québec sont très, très, très allumés concernant le fameux guide de Michelin qui va annoncer les restaurants? D'où vient cette frénésie-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec grand intérêt?
Bien, l'engouement est là, c'est sûr, surtout du côté des restaurateurs, parce
ouais.
que le guide Michelin, écoute, c'est une mine d'or pour un restaurateur qui réussit à avoir une étoile. T'as du touriste, là, ça va amener. C'est un peu comme une équipe de hockey, tu sais, le Canadien de Montréal. Bon, ça fait quand même rayonner Montréal. Les gens voient ça. Puis, mais le guide Michelin, les gens voyagent. Il y en a qui voyagent que pour aller dans ce genre de restaurant-là. Fait que ça va amener du touriste, ça, c'est certain. Puis pour les restaurateurs, ben, tu sais, si t'as des restaurateurs que ça fait 3 ans qui travaillent là-dessus, qui travaillent super fort. Puis écoute, d'après moi, il y a des restos qui vont être full book là, à partir du moment où ça va ouvrir.
Okay. C'est-tu un mal pour un bien? Y en a-tu qui vont se faire étoiler, mais qui ne souhaitent pas prendre ce prix-là parce que ça peut mener à des petits accros des fois?
Je pense que quand tu es rendu à ce niveau-là de restauration, je pense que tu la veux, ton étoile Michelin, parce que c'est énormément de travail. Tu sais, c'est... Tout est dans les détails, ça va être dans la bouffe, dans le service, dans l'ambiance, dans la qualité des ustensiles, des ingrédients que tu vas utiliser. Tu sais, demain, on a une rencontre avec le guide Michelin, justement, ils vont nous expliquer un peu les critères de c'est quoi qu'est-ce qu'il va faire, ils vont choisir, qu'est-ce qu'il va faire, tu vas avoir 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles Michelin. Mais on pense à la tanière, là, tu sais, c'est tout est dans les détails, ils travaillent super fort, fait que je pense que ça va être à soir. Je pense qu'il y a quelques restaurateurs qui vont faire le party puis qui vont souligner ça.
En Amérique, Jean-Sébastien, quand on parle d'étoiles Michelin, est-ce qu'automatiquement la facture est extrêmement salée?
Ça dépend. C'est sûr que, bon, vous connaissez la restauration, là, quand tu vas dans un restaurant de ce type-là, c'est le choix des produits, ça coûte plus cher, évidemment, parce que il y a de la qualité, c'est frais, c'est bon, c'est des produits locaux, surtout. Fait que tu sais, ça vient avec... ces restaurants-là ont des marges de profit de, quoi, 2 % maximum. Il y en a qui vont faire un petit peu plus, mais ça reste que oui, c'est sûr que plus tu vas manger de la qualité, puis plus le prix va être élevé.
Il y a quand même des endroits dans le monde, entre autres, où tu peux manger avec des étoiles Michelin pour très, très peu d'argent. Il y a des reconnaissances Michelin aussi données à des petits restos dans le Bronx à New York avec une table toute croche. C'est quoi la différence entre un grand resto puis un petit resto qui a une reconnaissance Michelin?
Oui, ben c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je connais pas encore à 100%. Puis comme je dis, je vais savoir demain, mais il y a les reconnaissances, puis il y a les étoiles Michelin. Les étoiles Michelin, je pense que c'est vraiment plus les restaurants haut de gamme avec les de style nappe blanche, des restaurants avec de la qualité dans l'assiette, puis etc. dans le service. Tandis que une expérience, ou ben en tout cas les reconnaissances, ça va être des restos qui font vraiment bien ça. Pas nécessairement nappe blanche, mais que quand tu t'en vas dans, mettons justement à Chicago, ben c'est une place que tu dois pas manquer, qui est vraiment populaire.
Y a-tu, tu sais, ben, j'imagine que pour tous les restaurateurs, là, c'est quelque chose d'exceptionnel là, que d'être dans le fameux Michelin puis d'avoir des étoiles. Y a-tu un stress qui s'apparente à ça? Y a-tu un stress qui arrive en disant « Oh, tabarouette, là, j'ai une étoile, là, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont venir chez nous spécialement, il faut que tout soit droit. » Ça doit être extrêmement stressant. Toutes les assiettes qui doivent sortir, tu dois les observer comme si c'était ta vie en dépendait, là.
C'est ça, mais en fait, Pascal, je pense que toi, t'es allé travailler dans un restaurant Michelin, ça se peut-tu?
Ouais, une immersion d'une journée, là.
Ça passé.
Je peux pas dire que je suis une grande chef.
T'es allé vivre l'expérience de Bear.
Oui, mais je l'ai vécu.
J'ai vraiment l'impression que tu pourrais plus nous en parler, là, à quel point c'est minutieux, le travail en arrière.
Oui, ça fait un peu aucun sens à quel point tout est calculé. Puis ouais. Je l'avais expliqué, moi, c'était des brins d'estragon que j'avais travaillé cette journée-là. Puis la seule raison pourquoi j'ai été capable d'intégrer la brigade, c'est parce qu'on était dans un festival gastronomique en Italie et non au restaurant. Parce que ça aurait été impossible que ça m'arrive. Puis tout était calculé du genre le nombre de millimètres ou de centimètres que mon brin d'estragon avait. Fallait que ça soit découpé puis qu'il y ait toute la même shape. Écoute, c'était coupé au petit ciseau de couturière. Chaque brin d'estragon était revu par un gars de la brigade ensuite sur mes plateaux. Il était trié et calculé, puis il y en a qui enlevaient de mon plateau quand ils ne trouvaient pas assez beau. Ça m'a pris une heure et quart pour environ peut-être 50-60 brins d'estragon. Fait que ça vous donne une idée à quel point tout est calculé. Puis dans cette brigade-là, tu as une hiérarchie de chefs qui s'en occupe, en fait. Là, c'est un 3 étoiles Michelin, donc on est au top de ce qu'on peut avoir. Ils ont l'étoile verte aussi, qui est l'éco-responsable. Donc, si tu réutilises des produits, tu as un jardin et tout ça. Ce restaurant-là avait tout. Fait que vous comprenez que c'est au summum de ce que tu dois offrir, puis tu veux pas perdre tes étoiles. Puis dans la hiérarchie, tu as la grande chef, mais tu as aussi sa sous-chef qui, elle, goûte à multiples reprises chaque chose qui est cuisinée avant d'aller dans une assiette. Fait que c'était une sauce pour les pâtes. Elle va l'avoir goûtée au moins 6 à 7 fois avant qu'elle soit considérée comme prête à être coulée dans l'assiette.
OK, mais est-ce que j'imagine que quand tu as une étoile Michelin, ça vient avec le nombre d'employés que tu peux avoir dans la place aussi. Là.
Que veux-tu dire?
Ben, ça prend un escadron, si maintenant.
Ta brigade, faire... là.
Quand tu as juste quelqu'un qui coupe les brindilles pour mettre ça directement
ouais,
dans l'assiette.
Là, tu comprends, moi, c'était ma tâche, mais mettons le poste qui était partagé ouais. À ce moment-là.
Je trouve qu'il voyait grand, toi, en donnant cette tâche-là.
C'était beaucoup, oui. Je pensais que j'allais juste casser les feuilles de basilic, là. Mais normalement, ça fait partie de plusieurs tâches qu'une seule personne a, et ce gars-là faisait aussi les pâtes fraîches, il s'occupait de toute sa tablée. Là. Fait que là, on s'entend qu'il n'y a pas une personne à l'estragon. C'est juste que moi, je suis mésadaptée en cuisine, clairement, pour un Michelin. Fait qu'ils m'ont dit, tu vas juste aller là. Mais c'est très, très bien rodé. Ouais, c'est ça. Puis la personne qui crie, si vous avez écouté The Bear, qui est excellente série, que vous aimez la restauration ou pas, qui crie, dans 5 minutes, il faut que ça soit à telle table. Ça, là, dans un Michelin, là, vous ne le voyez pas et vous ne l'entendez pas, mais c'est comme ça que ça se fait. Ils étudient la présence des clients. Fait que si Yannick Marceau décide de réserver, okay, là, on parle encore d'un 3 étoiles, ils vont aller regarder tes réseaux sociaux. Quelqu'un qui a sa job, ouais. Qui est un peu administrative, ça va être un peu enquêter sur toi. Comme un enquêteur de police, là, va être checké. Yannick Marceau, bon, OK, il vient avec... Ah, c'est sa conjointe avec qui il vient. C'est-tu sa fête? C'est-tu la fête de sa conjointe? OK, tel genre de personne, parfait. Ils vont adapter. La façon dont ils vont
pour savoir de quoi parler avec les clients puis avoir des conversations.
Hey, c'est incroyable quand même. Moi, tout je n'étais pas réfléchi. Au courant de ça, mais pas une seconde. Bon, Jean-Sébastien Potier, tu es de Libro et de Resto Québec. On va connaître aujourd'hui les restaurants de Québec et du Québec qui auront une distinction du guide Michelin. As-tu des idées, toi, de ton côté?
Ah ben c'est sûr qu'il y en a qui, on le sait, là, la Tanière sont impliqués depuis jour 1 pour amener le guide Michelin ici à Québec. Il y a plusieurs restaurateurs, je sais que Stéphane Moda du Clan est très impliqué aussi. À Montréal, on a le Mastor, on a ici Batuto, Harvey. Mm. On va en avoir, ça c'est certain. Je pense à Chez Boulay. On a vraiment des restaurants qui font bien ça ici, Saint-Amour. Mais la Tanière, je peux vous dire, j'ai hâte de voir si ça va être un, deux ou trois étoiles, mais c'est ça, c'est très attendu.
Okay, puis est-ce que le Bistrot B pourrait faire partie de cette liste-là?
Je suis pas allé depuis qu'ils ont rénové, ouais. Mais évidemment, le chef François est excellent.
François Blair.
Il y en a justement à qui j'ai envoyé mes félicitations, pas mes félicitations, mais des, on va dire, des pensées positives, puis qui me disaient, ben écoute, nous, on vise pas ça. Mettons le pied de cochon. Ils disaient, nous, on vise pas ça, mais on vise peut-être plus, justement, tantôt, tu parlais de l'expérience gourmande. Ouais. Eux, ils vont viser peut-être plus ce genre de catégorie-là, parce qu'ils se voient pas comme des nappes blanches. Fait que ça donne une idée, là. D'après moi, il va y avoir des distinctions pas mal au Québec, mais c'est ça, ceux qui ont des étoiles, on va aller dans les restos vraiment haut de gamme.
Merci Jean-Sébastien.
Merci à vous autres.
Passe une belle journée. Bye bye. Bye. Jean-Sébastien Potier de Libro et de Resto Québec. Toi, as-tu des idées de qui pourrait être dans ce fameux guide de Michelin-là à Québec?
Bien, toi et moi, on avait parlé au chef propriétaire de la Tanière.
Oui.
Pour l'avoir, moi, je l'ai vécu juste une fois. Toi, tu disais que tu es allé au moins deux, trois fois.
Oui.
Pour la fois où je l'ai vécu, je te garantis et tu comprends que dans l'expérience, tout ce que ça comporte, les produits du terroir, la façon dont ils viennent te parler à table, ce qui est présenté, tout est calculé.
Tu es là une fois dans ta vie.
Pour moi, c'est de calibre. C'est... Trois, je serais surprise. Deux, je serais pas surprise.
C'est ça. J'ai
un
de mes chums qui va avoir ses 50 ans prochainement, puis on est en train de planifier d'aller justement à la Tanière dans quelques mois. Puis c'est ça, dans les négociations, parce qu'il y en a qui veulent pas y aller parce que ça y a un certain prix qui vient avec ça.
Oui, il faut que ça soit un plaisir, que tu aies envie.
Si on se prévoit quelques mois d'avance, j'imagine qu'il y en a qui vont être capables de se préparer aussi.
Mais ça, je te dirais, c'est une certitude pour moi.
Deux?
Je comprendrais pas que la Tanière n'est pas... Puis jusqu'à deux. Je serais pas surprise.
Deux.
Jusqu'à deux étoiles, one shot. Parce que tu peux en avoir une et récolter les autres par la suite. Mais tu peux aussi en avoir deux à trois en une fois. L'affaire est que trois en même temps, hey!
Mais tu serais bonne, toi, pour travailler pour eux autres, pour aller sur les réseaux sociaux puis voir qu'est-ce qu'il a liké. Puis il sort avec qui.
Je fais ça avec les criminels. Moi, je fais ça avec les criminels.
Oui?
Oui, il y avait quelque chose qui a laissé présager. Puis ça fait peut-être que je serais bonne. Oui.
L'autre jour, j'ai parlé de toi dans la chambre de hockey.
Pardon?
Parce que tu m'as appris... c'était dans la douche qu'on parlait de ça.
Ah, super!
Parce que tu m'as appris qu'il y avait un site Internet ou un site Facebook où les filles allaient pour savoir s'ils dataient le même gars dans la même ville.
Oui, puis t'en es venu à en parler avec tes chums de hockey pour quelle raison?
On parlait de ça, puis là, j'ai vu un gars qui se revirait vers moi, puis il a dit, c'est quoi ce site-là?
Je me demandais si...
Là, j'allais trouver suspect de me poser cette question-là.
Mais ça roule encore.
Ça roule encore?
Mm-hmm. Bon. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que quand il y en a qui sont pointés et épinglés, mettons...
Tu vois-tu des faces que tu connais?
J'ai déjà vu des visages que je connaissais.
Ah, ouais. Puis ça, c'est comme une secte de filles, là, c'est ça?
Je l'ai toujours dit que j'étais en dichotomie avec ma réaction face à ce groupe-là.
Ouais.
Parce que tu peux avoir une mauvaise expérience avec un homme, puis une autre, une super bonne expérience, puis ça dépend comment tu t'accordes et tout ça. Mais il y a des moments où je vois à quel point ça peut être intéressant pour une femme groupe.
Nous autres, c'était le bouche-à-bouche. On était dans le bar, là, puis là, il y a une fille qui disait « Hey, il est comment ce gars-là avec les filles? » Puis là, les autres filles disaient « C'est un crosseur! »
Ouais.
Mais là, crosseur, ça veut dire quoi? Crosseur 100% ou crosseur à 30% ou 50%?
Ou les deux, vous n'entendiez pas, mais il a été correct avec d'autres.
Fait qu'il y a des filles qui y allaient pareil. Mais là, avec le site Facebook où les filles s'échangent les informations.
Ben, j'ai déjà vu une photo d'une barrette, là. Puis là, c'était une fille qui avait trouvé une barrette.
Elle a trouvé une barrette chez
dans
le gars.
Dans la chambre de son chum.
Uh-huh.
Pas de sa fréquentation, de son chum. Puis elle dit, hey, c'est pas à moi. Puis il me dit que c'est à sa sœur. Elle dit, tu as une de vous.
Ouais.
Puis il y a quelqu'un qui a répondu « Oui, c'est la mienne.
Oh. »
Puis elle dit « Viens me parler en privé. » Tu sais, ça se fait jamais sur... Il y a vraiment des règlements de ce que je comprends de la page. Là. Puis elle dit « Viens me parler en privé. Je vais t'échanger d'informations. Juste que tu reconnaisses ou pas si c'est vraiment ce gars-là et cette chambre-là.
Mais voyons donc. Ouais. Ah ouais.
Puis aux dernières
nouvelles... Je savais pas que vous étiez bien organisé comme ça.
Ben là, c'est pas moi qui ai monté ça.
Y a-tu des affaires pour les gars aussi? Informe-moi sur Facebook, là, ça
oui,
m'intéresse.
Ah oui, dating the same girl.
On va mettre... Ouais, c'est ça. On va mettre la face de la fille, voir comment ça va être perçu.
Ben moi, je pense que si c'est fait comme ça se fait sur cette page-là, qui me rend vraiment mal à l'aise à certains moments...
Ah, moi, ces histoires-là, je trouve ça parfait. Il y a un gars avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ça a été mon patron. Puis lui, il fréquentait une fille. Puis à un moment donné, la fille, elle a trouvé une paire de bobettes de fille dans son lit.
OK. C'était à sa sœur.
Puis il a réussi à y faire croire que c'était les bobettes de son ex, puis qu'il n'avait pas lavé le lit depuis tout ce temps-là.
Ça me fait super de la peine parce que tu dis, pourquoi pas être honnête?
Hein?
Pourquoi pas être honnête?
Ben, d'après moi, il voulait pas la perdre, mais malheureusement...
Il voulait pas la perdre, mais il couche avec une autre. Fait qu'est-ce qu'il voulait vraiment pas la perdre?
Ben, c'est ça. Faut pas mettre ses trucs dedans
l'autre. Mais tu sais, quand t'es en amour, ça aussi, ça me fait de la peine. Là.
Ouais.
La fille qui a écrit ça.
Elle l'a curé, puis pas parce qu'elle l'a sacré là,
ça,
un peu
fini?
Plus tard. Ouais.
Okay, okay.
Parce que finalement, c'est comme... Elle a écouté ses explications. Puis elle a laissé le temps passer, puis elle a su que de bouche à bouche que c'est un crosseur.
OK.
Ça y a pris ça.
OK.
T'sais, les bobettes, elle y croyait pas encore, mais de se faire dire par une de ses chums
c'est
de filles
que c'est un crosseur. Chaque chose en son temps.
Les étapes. 13h06, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-101, 88-971-101. Martin Bourget, notre expert chasse-pêche, qui va être là dans quelques secondes. Marceau.